Vous avez peut-être eu vent de cette tribune initiée par les cineastes Claude Lelouch et Radu Mihaileanu, parue hier dans le journal du dimanche, où il est question de la préservation de notre exception culturelle comme un défi, comme une arme aussi, face à l'hégémonie américaine notamment. Ainsi s'ouvre cette tribune. Il y a 60 ans, Charles de Gaulle et André Malraux ont fondé le ministère de la Culture, convaincus que la France devait affirmer avec force son identité, sa souveraineté et son rayonnement international à travers la culture, face aux Américains qui projetaient de nous convertir à leur façon de penser et de consommer, nous rendant dépendants de leur puissance économique. C'est quand même intéressant, l'histoire qui se répète. Parce que tout se passe comme si, en effet, on avait oublié les enjeux politiques de la culture qui ont été pensés il y a 60 ans. La politique culturelle, qui n'était pas seulement un exotisme français, mais un levier de puissance, de soft power, comme on dit, de pouvoir doux, pour relever le pays et pour l'imposer sur la scène internationale. Et c'est bien l'Amérique matérialiste et conquérante qu'il s'agit alors, en 58, de bloquer. Cette Amérique qui entend bien, en pleine guerre froide, porter le flambeau de la civilisation occidentale, la préservation de nos créations, la défense de nos arts, le rayonnement culturel de la France à l'étranger, qu'on ne s'y trompe pas, c'est aussi, peut-être d'abord, un enjeu de pouvoir.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Que fait mon invité d'aujourd'hui de l'exception culturelle française? Lui qui en est une d'exception culturelle, quelque part, ne serait-ce que parce qu'on lui doit quelques-uns des films français les plus mémorables de ces trois dernières décennies. La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, L'amour est dans le pré, ou encore Tanguy, dont la suite, 18 ans après, sera sur vos écrans dès mercredi. Bonjour Étienne Chatiliez.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous sentez menacé, vous, par les États-Unis?
Ce truc était formidable, moi. C'est-à-dire qu'à travers le cinéma, l'Amérique voulait vendre tous ses produits et son way of living. Oui. Donc, il servait du cinéma pour mettre un pied en Europe, et ensuite, tous les produits qui arrivent derrière, du chewing-gum au coca et tout le bordel. Donc, c'était un pied mis chez nous pour nous vendre de tout. Oui. Donc le truc qu'ont fait De Gaulle et Malraux, ça a sauvé pas mal de le cinéma français. C'est peut-être aussi pour ça que c'est resté le deuxième producteur mondial, je crois, par rapport au nombre d'habitants et tout le bordel.
Mais vous parlez au passé, mais c'est toujours le cas aujourd'hui,
oui,
non?
Oui, c'est toujours le cas. Je veux dire que ça, la façon dont on défend la production en France, ça vient de là.
Et vous sentez menacé par la Chine parce qu'il y a beaucoup question de chinois dans Tanguy. Et dans Tanguy le retour aussi.
Moi, le péril chinois, c'est quelque chose, on a été élu avec ça. Mais moi c'est, dans le film, il pourrait être norvégien ou il pourrait être brésilien. C'est pas tellement le problème de la couleur de peau, bien évidemment. Donc, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai vu un reportage sur le président chinois et ensuite la façon dont la Chine s'infiltrait partout dans le monde avec la technique de la lamproie et tout. J'ai pas réussi à éteindre la téloche après, j'étais terrorisé dans mon pieu. Donc, c'est quelque chose... Oui, de toute façon, je suis terrorisé par tout ce qui est avidité économique de l'homme.
Alors justement, est-ce que l'exception culturelle française vous semble suffisamment défendue aujourd'hui pour reprendre cette inquiétude de cette tribune parue hier dans le journal du dimanche?
Je sais pas, je suis pas très très au courant, mais je pense qu'il faut toujours défendre, il faut toujours gueuler un bon coup, et quand on gueule pas, on n'a rien. Donc, et je pense qu'il n'y a qu'une chose importante en dehors d'avoir de quoi bouffer, c'est la culture, et tout ce qui reste d'une civilisation, c'est la culture et les arts.
Il est question, dans cette tribune justement, du mot culture qui passe toujours au second plan dans le discours politique et dans l'action politique également. Vous partagez ça?
Ah bah, complètement. Je dis ce qui reste de l'homme. C'est-à-dire, est-ce que les grottes de Lascaux, on se souvient de quoi? Du mec qui était président ou des dessins? Trouvez la réponse.
Pourquoi il faut le protéger, le cinéma? Plus que jamais. Étienne Chatiliez.
D'abord, il faut le protéger contre les séries, qui sont là aussi, à mon sens, mais là je vais me foutre toute la France à dos, totalement inintéressantes.
Et des trucs ça dépend des séries quand même.
Non. Que de la conso, je trouve. Que de la conso super bien écrite, super bien jouée, super bien réalisée, tout ça. Mais il n'y a pas d'auteur, il y a des auteurs. Donc moi, j'aime pas ça. Donc il faut toujours défendre la culture, quoi qu'il arrive.
Mais vous dites les séries, il s'agit aussi de défendre, je suppose, pour vous, la salle de cinéma. Est-ce qu'elle a encore un avenir pour vous?
Alors attendez, je regarde dans ma boule de cristal, dans le marc de café, dans le foie de porc.
Moi, le foie de porc.
Dans le foie de porc. Moi, je crois que la salle a beaucoup d'avenir. l'avenir, oui. J'en sais rien, je me gourre peut-être complètement, mais enfin, je trouve que comme... Je rêve d'un monde où tout le monde serait pas sur son smartphone, et je trouve que la salle de cinéma est un endroit où on est encore ensemble, et je pense que plus on aura de la technologie, plus les gens auront aussi besoin d'être ensemble.
Ce que je remarque, Étienne, c'est que les parents de Tanguy, dans votre film, ils contribuent pas vraiment à assurer la pérennité des salles de cinéma, puisqu'ils sont plutôt du genre à passer leur soirée dans le canapé et de leur salon à regarder des séries,
ben
précisément.
Oui, c'était pour me moquer un peu des gens qui font ça. Le pire dans les séries, c'est pas tellement de les regarder, c'est ensuite, dans les dîners, d'en parler pendant un quart d'heure. Alors là, ça, c'est la vraie tannée.
Vous supportez pas, vous ?
Non.
Et vous en regardez, quand même ?
Non.
Alors comment vous pouvez les juger, Étienne ?
Ben, je peux parler de la Lune, j'y suis jamais allé. Hein.
Alors Tanguy, le retour 18 ans après le succès du premier, on y retrouve ses parents, évidemment toujours interprétés par Sabine Azéma et André Dussolier, deux retraités qui font du golf, du yoga à domicile, des dîners, qui vivent dans un appartement sublime. De quelle France est-ce que vous nous parlez, en fait ?
Mais c'est scénaristiquement que c'est un texte que c'est obligatoire, c'est-à-dire que si Edith et Paul, qui vont maltraiter leur fils Tanguy, étaient comme la famille Pierre à Feu, ça aurait pas été drôle. Il fallait qu'ils soient cultivés, doués d'une intelligence, ayant des moyens pour qu'ils deviennent monstrueux. Ils sont encore plus monstrueux alors qu'à la base, ils étaient tout à fait cultivés.
Vous qui êtes si souvent parvenu à saisir quelque chose de l'air du temps, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être en phase avec notre époque? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous interroge, le fait d'être en phase.
Ouais, je m'interroge comme ça, mais je me souviens, c'est Almodovar qui allait voir Billy Wilder aux États-Unis, lui demandait pourquoi vous faites plus de films, il a répondu parce que je ne suis plus en phase avec la société, ça pourra très bien m'arriver. La réponse sera peut-être après-demain dans la sortie du film, est-ce que je suis encore en phase ou pas? Bah, moi, ce qui m'amuse, c'est de parler du monde dans lequel je vis, du pays dans lequel je vis, des gens qui y vivent, et de faire une petite satire, une petite chronique de tout ça, et c'est une critique dont je ne m'exclus absolument pas, mais c'est comment réagit qui on est, hein, les êtres humains sur cette petite boule qui tourne dans le noir, les petites fourmis que nous sommes, et comment on se démerde avec tout ça.
Je craque, Paul.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
J'arriverai pas à supporter Tanguy 18 mois de plus.
Pourquoi ?
Marielle, vous savez que vous êtes très belle en ce moment. Vous me faites bander, Marielle.
Je suis fatiguée, Pierre, tu comprends ? Trop, c'est trop, j'ai pas mérité ça.
Enfin, maman, il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman.
Jésus revient parmi les tiens.
Mais enfin, Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait.
Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon.
Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie.
Connasse.
La salope.
Sa façon mielleuse qu'il a de s'exprimer. Et sa thèse, sa putain de thèse. Je peux plus le voir en peinture.
Oh la salope.
Elles sont déchaînées, ces salopes. T'entends le raffut ? Elles veulent des garanties, alors ça, c'est la meilleure, ça.
Dibasse, bonne de gueule.
Si fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre.
Et tu fais chier, tes proverbes chinois !
Qui est au-dessus de toute colère, s'exprimera par la non...
Putain !
Vous avez fini de torturer cette pauvre madame au privé ? C'est moche, ce que vous faites. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ?
Elle pue. Un point, c'est tout, elle pue.
Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore. Mais elle vous déteste déjà.
Elle est gentille, ma fille, hein?
Oui, mais qu'est-ce qu'elle y aide?
Cernovitch, une mauvaise humeur.
Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là? Plaisir.
Hey, Jésus revient,
ça sent bon chez vous.
C'est lundi, c'est ravioli.
Mais moi, ce qui m'épate quand même, Étienne Chatiliez, c'est que ces films, ces répliques cultes qui ont marqué des générations de spectateurs, en fait, ils ont même fait naître des expressions qui sont passées dans le langage commun. Ça vous a surpris, ça, vous-même ?
Oui, bien sûr. On s'attend pas du tout à ce que ça devienne, entre guillemets, repris par tout le monde. C'est un plaisir, hein, c'est un bonheur, parce que comme vous essayez de parler des gens qui vous entourent et qui se reconnaissent à travers ce que vous faites, c'est formidable.
Et vous-même, vous les utilisez, ces expressions ? Vous dites à votre belle-mère qu'elle est une Tati Daniel, par exemple ?
Non, je n'utilise pas, mais ça me faisait marrer là d'entendre tout ce qu'on vient d'entendre. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je ne suis pas tout seul, hein. Il y a des scénaristes, il y a eu Florence Quentin, il y a Laurent Chouchan, et c'est plus révélateur d'un état d'esprit général. Que lundi, c'est ravioli, ça voulait dire chez le bourgeois, on bouffe mal, il bouffe des raviolis en boîte de conserve réchauffés dans la casserole. Donc il y a toujours un sens derrière la forme.
Et ça dit aussi quelque chose, et à mon avis c'est passionnant, du pouvoir du cinéma et de ses rediffusions aussi à la télévision notamment, la manière dont on s'est créé des repères culturels partagés par tous. La question, c'est de savoir si le cinéma a encore ce pouvoir aujourd'hui. Étienne.
Alors je regarde dans ma boule de cristal et dans mon foie de porc. non, je sais pas du tout s'il y a encore. C'était quoi la question?
Est-ce que le pouvoir a le pouvoir de le cinéma a le pouvoir de créer ces repères là culturels encore aujourd'hui? À votre avis?
Oui, j'imagine que oui. J'imagine que oui, mais ce qui est intéressant, c'est, je vous dis, c'est que ça révèle toujours un fond. C'est pas du juste, c'est pas des jeux de mots, c'est pas des trucs comme ça. C'est le pouvoir peut-être de la comédie, c'est justement de pouvoir, avec humour, faire baisser la garde à la personne qui est en face de vous et lui faire changer d'avis un quart de seconde. Et l'arme est une, l'humour est une arme. Et c'est ça qui me semble important.
Et ça, c'est le cinéma. C'est pas la télé, les rediffusions à la télé pour vous.
C'est un ensemble, mais je veux dire par là que ça soit une rediffusion à la télé ou que ce soit un passage au cinéma, à la base, c'est un film de cinéma.
Dans votre vie d'enfant et d'adolescent, Étienne Chatillier, quelle place il avait, le cinéma?
Pas énorme, hein, pas énorme. J'étais en province, j'allais peu au cinéma. Le premier film que j'ai vu, je crois que c'est Crin Blanc. J'ai gardé une peur atroce des bourrins. non, il y a peine. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui s'est venu au cinéma parce que j'étais à genoux sur le pré de Dion regardant le cinéma en disant un jour je te rejoindrai au grand cinéma. Moi, je suis quelqu'un qui préfère les choses drôles et qui s'est servi du cinéma. J'aimais la peinture, j'aimais plein de choses. J'étais incapable. Je voulais être comédien, j'avais une voix de canard. Je voulais être architecte, je voulais être chanteur. J'étais nul dans toutes ces disciplines et finalement, quand on fait du cinéma, on touche à toutes ces disciplines et on dirige des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Ouais, super.
Il vous a appris quelque chose quand même, le cinéma ?
Oui, il m'a appris, il m'a permis, ce que j'ai toujours fait avant, de faire rire, parce que je crois que c'était ce que je savais intimement faire en étant déjà jeune et tout ça. Et pouvoir m'exprimer à travers ça et faire rire d'autres, il m'a donné beaucoup. Il m'a donné beaucoup.
Vous savez qu'il y en a une qui ne nous donne rien dans cette émission, qui ne nous apprend rien du tout, Étienne. Sans doute la connaissez-vous, c'est la culture. Et son actualité pauvre, ignorante et vlaide. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 8 avril?
Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, quand t'es charmant, une valse à quatre temps.
Aujourd'hui, on ne s'embrêle pas, on célèbre le 90e anniversaire de la naissance du grand Jacques, né donc le 8 avril 1929 et mort il y a 40 ans. L'occasion de rappeler que la mairie de Paris a annoncé l'inauguration très bientôt d'une rue qui portera le nom du plus français des chanteurs belges, un hommage à la hauteur de son talent et de son amour pour la capitale, c'est une citation. En France, il existe déjà des rues Jacques Brel dans les villes de Soissons, du Havre, du Mans et de Villeurbanne, bref, il ne nous quitte pas.
Pour moi, lire un roman, c'est une expérience sensible. De toutes mes lectures, il me reste une expérience sensible.
Joncourt, toujours. Le romancier Serge Joncourt a reçu le prix du roman d'écologie 2019 avec son beau roman Chien-loup, publié chez Flammarion, dont il était venu nous parler à ce micro le 30 août dernier. Récit palpitant où les mondes, les époques et les passions se confrontent avec violence pour mieux réfléchir à la sauvagerie du présent. Le livre fait également partie des 10 romans sélectionnés pour le prix du livre Inter. Bravo Hugo. Elle est à la harpe ce que le Stradivarius est au violon, une légende, la Telen Gentan, mythique harpe celtique du musicien Alan Stivell, pape de la musique bretonne, vient d'être immortalisée grâce à une technique de numérisation 3D, modèle sur lequel sont fabriquées de milliers de harpes depuis 1953. L'instrument de légende n'était jusqu'à présent pas à l'abri des détériorisations et des accidents, pardon. Désormais entièrement scannée, elle est donc immortalisée pour les générations futures de musiciens qui voudront percer les mystères de sa fabrication. Du bon, du beau, du Beaune. Le festival du film policier de Beaune a livré son palmarès ce week-end. Résultat, le grand prix de cette 11e édition du rendez-vous bourguignon présidé par Benoît Jacquot revient à Face à la nuit du réalisateur malaisien Wee Ding Ho, thriller nerveux qui plonge dans les nuits interlopes d'un homme à la dérive. Dans le même temps, le joli festival Cinéma d'Afrique à Angers a révélé ses lauréats de l'année avec notamment le prix jury du public à Douga les Charognards du Burkinabé Abdoulaye Dao. Et le réalisateur Étienne Chatillier, invité de Boomerang ce matin pour Tanguy, le retour en salle après-demain. Ce film, c'est aussi un petit peu Étienne, le retour, hein. Je crois qu'on peut le dire, puisque votre dernier long-métrage, L'Oncle Charles, remonte il y a 7 ans.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Rien. J'ai toujours mis du temps entre les films. Faut croire aux choses. J'ai toujours eu du mal à croire aux choses. Et puis, j'ai eu des projets qu'on pas vu de jour. Et voilà.
Comment ça, vous avez du mal à croire aux choses?
À croire à une idée à laquelle, pour pouvoir se lever pendant 3 ans, pour que ça devienne une réalité. Oui, j'ai toujours du mal à croire aux choses.
Il arrive qu'il n'y ait plus d'envie, plus de désir, plus d'histoire.
C'est tout à fait juste, docteur. Mais là, c'est l'inverse. Là, en ce moment, j'ai plein d'envie et plein d'envie de raconter des histoires.
Mais pour ce film, en l'occurrence, ce qui est intéressant, Étienne Châtillès, c'est que cette idée de suite, elle n'était pas de vous. Elle était de vos producteurs. Pourquoi est-ce que vous leur avez dit oui?
Parce que justement, je crois qu'il y avait 16-17 ans, qu'il y avait un caractère qui était celui de Tanguy, qui était quand même un joli enfoiré, qu'il y avait un couple de seniors que j'aimais bien la description de ces gens qui sont toujours ensemble 50 ans après, qui ont besoin de personne d'autre, et parce que... Je n'y serais pas. Il n'y a pas d'intention commerçante. J'y suis allé uniquement parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu. Autrement, j'y serais pas allé.
Et il faut bien que le personnage et le film premier, Tanguy, aient une place particulière dans votre cœur et dans votre histoire, dans votre trajectoire, non?
Ouais, j'aime bien Tanguy parce qu'il y avait quelque chose de terrible derrière. C'est-à-dire que je pense que loin de la, je m'exprime très mal ce matin. Ça tombe sur vous, je suis désolé.
Ça va.
Bon, le fait sociétal m'intéresse beaucoup moins que ce qu'il y a derrière et qui est beaucoup plus universel, qui est que tous les parents du monde ont beau adorer la chair de leur chair. Une minute par jour, ils ont envie de les buter. Et je crois que c'est ça qui est fort dans Tanguy.
Paul!
Quelle heure il est?
6h. Tanguy était soi-disant parti se coucher. Il est sorti jusqu'à 6h du matin avec Bruno.
Et alors, il a 44 ans.
Tu trouves ça normal? Il était au 36e dessous hier soir.
C'est qu'il va mieux.
Exactement, il va mieux. Beaucoup mieux que ce qu'il prétend. Le départ de Méline lui a peut-être mis un bon coup sur la cafetière, mais finalement, ça lui convient parfaitement d'être chez papa et maman avec sa fille.
On est obligé d'en parler maintenant.
J'ai peur, Paul. Ça fait 3 mois qu'il est là, et à chaque fois qu'on lui demande ce qu'il veut faire, il sait pas, c'est trop tôt, je sais pas quoi encore. Je suis sûre qu'il nous joue la comédie. Il est bien à la maison.
Oh, c'est pas parce qu'il est sorti un soir qu'il nous joue la comédie.
Mais tu comprends pas. Il a retrouvé le nid. Il a pas changé, Paul.
On l'a jusqu'à la fin de nos jours.
Le truc avec Tanguy et Étienne Châtillès, c'est qu'il joue la comédie.
Ah, mais je sais pas si il est prisonnier de lui-même. Je veux dire, c'est un vrai. Il a un petit réglage qui est pas du tout. Il a vraiment. Putain, qu'est-ce que je me suis pris mal. C'est un psychopathe.
Ah, c'est un psychopathe carrément pour
moi.
Oh,
moi, je pense. Ouais, je suis sûr même.
Quelle question on se pose quand on réalise la suite d'un film qui a très bien marché en tant que réalisateur? Quels sont les pièges qu'on cherche à tout prix à éviter?
Alors on les oublie très vite, mais à la base, ce qu'on se dit, c'est... Bon, les gens vont dire que le 2 est toujours moins bien que le 1. C'est comme un resto, vous avez très bien bouffé, vous y retournez, vous dites... Peut-être moins bien, non?
Sauf quand c'est une grande franchise, dans ce cas c'est toujours pareil. Donc...
Ouais, une grande franchise, ça dépend dans quel sens vous mettez le mot franchise. Mais, et puis on oublie tout ça. Moi j'y suis allé avec énormément d'entrain, comme mon camarade Laurent Chouchon, scénariste aussi, les comédiens aussi. Je dis, il n'y avait pas d'envie commerçante, il y avait juste... Moi si j'y vais, c'est parce que j'y crois, ça me plaît, je peux très bien me gourer. Mais en tous les cas, c'était sincère.
Et vous avez pris votre temps, Étienne Châtillès. Je vous ai même entendu un jour dire que vous étiez très lent. C'est vrai, ça?
Sans doute pas. Mais vous savez, on en dit des choses pour se repardonner.
De quoi?
Je ne sais pas, mais on veut que les gens s'apitoient sur vous. Mais c'est vrai que je suis très rapide et très lent, les deux.
Bah, ça a dû vous poser problème quand même quand vous travaillez dans la publicité, non?
Non, pas du tout.
La lenteur.
Non, parce que c'est une phase... Regardez, je parle de façon très narde. Il y a un truc de lent, puis l'esprit va plus vite que la parole, fort heureusement. Mais je ne sais pas si je suis lent ou si je suis rapide. J'en sais rien.
Comment vous êtes venu à réaliser des publicités, tiens d'ailleurs, Étienne?
Parce que je trouvais que la façon de raconter... Moi, je faisais de la pub, hein, j'écrivais les spots de pub. Ouais. Et puis après, je me suis dit que... c'était toujours important la façon de raconter une histoire parce que ça donnait pas la même chose. Et j'ai voulu le faire de A à Z pour être sûr que ce que je voulais y mettre, y soit. Et puis voilà, puis après c'est comme la drogue, comme les salles, je ne l'ai plus passé dans des salles de cinéma et les gens se marraient, j'ai eu envie d'une dose plus forte, donc je me suis mis à faire des longs métrages.
Il y a quelque chose avec l'image quand même, je suppose, non?
Ah ouais, moi j'aime bien l'image, j'adore l'image, moi je vous dis, je voulais être peintre, je voulais être architecte, je voulais tout ça, et en même temps, je suis pas un immense filmeur du tout. Parce que moi, j'ai une mémoire visuelle, ça passe par l'image. Vraiment, pour moi, je sais. Quand j'écris, je vois les choses, je les vois.
Qu'est-ce que la publicité vous a appris en tant que cinéaste?
Elle m'a rien appris. Elle m'a juste permis de voir que ce qui me faisait rire d'autres peut-être, et de découvrir ça. Et elle m'a appris à me faire confiance justement de ce point de vue-là. Mais c'est le même mec. C'est-à-dire que moi, j'étais pas fait pour faire de la pub plus particulièrement, mais c'est le même mec qui a fait de la pub et qui a fait des longs métrages. J'ai pas changé, je suis le même.
Ouais, mais il devait bien vous manquer quelque chose dans la publicité pour que vous passiez au long métrage, non?
Oui, sans... ouais, mais j'ai été un vrai militant de la publicité. J'ai toujours considéré que les gens à qui on s'adressait, fallait pas les prendre pour des cons. J'ai toujours trouvé que c'était formidable, et j'ai toujours donné quelque chose au spectateur dans la mesure où je lui imposais quelque chose. Donc j'étais donnant dans ma façon de faire. C'est-à-dire que je les faisais rire parce que j'ai dû leur demander de m'écouter.
Je suppose que dans un film, on exprime plus son point de vue quand même.
Bien évidemment, non, on exprime son point de vue à travers une publicité. On peut même à la limite avoir une vision du monde et tout, mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien de tout ça.
C'est d'abord ça pour vous, le cinéma, une vision du monde?
Ah oui, je crois que c'est vraiment une vision du monde, et ça c'est quelque chose qui s'apprend pas, vous l'avez jamais. Vous l'avez le premier jour, ou vous l'avez jamais d'ailleurs. On apprend à être de plus en plus précis dans son vocabulaire, on apprend la grammaire du cinéma, mais on est bon le premier jour ou on l'est jamais.
C'est une question de regard.
Oui, là. Complètement, oui, c'est comme tout.
Et vous savez, Étienne, que dans cette émission, on est très regard, mais on est très touché aussi.
Vous êtes très touché.
Ah bon, on est très très touché, on est très caresse, donnez-moi la main. Tiens, je vous prends la main.
La loi caresse?
Non, pas du tout, non. Ça n'a rien à voir. C'est juste que j'ai envie de vous tenir la main parce qu'on est lundi et que je vous ai préparé un petit Beatles. Je sais que ça vous fait plaisir.
Ah,
I wanna
oui.
Hold your hand. 1964, vous êtes sur France Inter avec Étienne Chatiliez. Vous écoutez Boomerang. La semaine commence plutôt bien, de lundi.
Such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand. It's such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I think you understand.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors c'est assez troublant parce qu'effectivement physiquement on est quelque part entre Robert Redford et Tati Daniel. Avec son œil blond, bleu lagon, pardon, de Casanova, sa crinière d'aventurier, son air parfois un petit peu bougon, on sait jamais s'il se prépare à vous faire un sale coup ou un bisou. Il a les lunettes posées sur le front, il faudrait qu'il les mette sur les yeux, quand même c'est important, c'est pour ça les lunettes. Le réalisateur Étienne Chatiliez, invité de Boomerang pour Tanguy, le retour, un film dans lequel vous continuez d'explorer ce qui semble être l'un de vos sujets de prédilection, à savoir la famille. Étienne, pourquoi est-ce que la famille est une source inépuisable d'inspiration pour vous? Ça cache quelque chose.
Bon, on va savoir. Non, j'ai aucune idée. Moi, je crois que je suis pas encore assez grand pour parler de l'amour entre adultes qui se sont choisis. Donc là, il y a un amour obligatoire, filial, frère, sœur, père, mère, machin. Et puis la famille, c'est la seule façon que la société a trouvé pour se regrouper. Et on passe toute sa vie à se remettre de l'éducation qu'on a reçue.
Comment ça, vous n'êtes pas assez grand? Vous avez quel âge, Étienne?
Moi, je suis vieux, mais je suis pas assez grand.
Dans votre tête, vous avez quel âge?
Bon, moi, j'en sais rien. Il y a un mec qui a trafiqué mon passeport.
Ah,
moi,
ça, c'est sûr.
J'ai 15 ans.
15 ans?
Ouais.
Alors mettez pas 15 ans hein, sur votre passeport si vous le retrafiquez derrière parce qu'on vous croirait pas, mais vous pouvez.
Non, mais bon, j'ai 15 ans. Moi, je suis comme Amanda Lear, hein. Je suis toujours jeune.
Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi, Étienne?
Des bourgeois désargentés.
Qui étaient vos parents?
Ouais, qui étaient mes parents? Pierre et Denise. Denise un peu folle dingue et sympathique. Pierre un peu bougon. C'est le mélange des deux.
Et de quoi est-ce qu'ils rêvaient, eux?
Je sais pas de quoi ils rêvaient. Mais ils étaient plutôt, ils étaient très libéraux, très tranquilles. Ils nous foutaient la paix, c'était tout à fait agréable. Et mon esprit vient du côté de maman, comme on dit.
Et quel genre de fils est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez plutôt Tanguy ou Maurice Groseille le Quesnoy?
Moi, j'étais un enfant extrêmement timide qui rougissait à n'importe même le courant d'air, le faisait rougir. J'existais pas beaucoup.
Ah,
j'avais un frère très présent. J'étais un enfant malade. Ah non, j'ai démarré avec un handicap. Hein. Oh putain.
Et ces rougissements, ils sont arrêtés quand?
Je sais pas bien, ils peuvent revenir. Je les ai filés à ma fille. Ma fille, elle rougit comme je rougis.
J'essaie désespérément de vous faire rougir, je vous ai même tenu la main depuis le début de cette émission, ça ne fonctionne pas, Étienne.
Bah, peut-être pas, parce que le décor est encore plus rouge que moi, sans doute.
Certes, entre nous, cette institution de la famille, dont vous ne cessez de rire hein, de façon très grinçante à travers vos films, vous l'aimez, vous?
Ah ouais, moi j'aime bien ça, la famille. Je dis, ça peut être le pire et le meilleur, hein. C'est très spécial la famille, ça me fait rigoler moi.
Mais c'est souvent le pire chez vous, ce ton si grinçant et très peu consensuel, c'est ce qui a fait votre renommée et la spécificité de votre cinéma. Il est où le non-consensuel aujourd'hui, à votre avis? Il est toujours possible?
Oh oui, moi je crois sincèrement qu'il est toujours possible. Je crois qu'il y a une espèce de pudeur qui fait qu'on dit que ce n'est plus possible et d'auto-censure. Mais quand je vois quelqu'un comme Blanche Gardin, oui. Je me dis que c'est tout à fait possible parce qu'elle est brillante, c'est fait avec tellement d'intelligence. Donc bien sûr c'est possible. Je crois que on est dans un monde qui toutes les crises théoriquement apportent des périodes de création. Là c'est l'inverse, c'est le plus bas dénominateur commun, c'est pas de vague, faut rien risquer, tout le bordel, c'est un monde très chiant, on a rien de... tout le monde se choque et tout. Non, c'est pas marrant.
Vous faites attention à ce que vous dites vous parfois ou jamais?
J'aime pas choquer pour choquer, mais je fais pas très attention non plus à ce que je dis, puisque ce que je dis n'est pas tellement choquant.
Non, précisément.
C'est juste lucide.
En quoi votre nouveau film répond à votre goût pour cet humour non consensuel, pour le politiquement incorrect? Qu'est-ce qu'il y aurait de politiquement incorrect dans Tanguy le Retour, tiens?
Oh, y a rien de spécial politiquement incorrect, c'est pas non plus une marque de fabrique, je crois que c'est plutôt une façon d'observer la vie, les choses, et y a rien de nouveau. C'est simplement être un tout petit peu lucide, pas se laisser berner, essayer de raconter qui on est. Je sais pas du tout si je réponds à la question.
Si. Qu'est-ce que c'est une comédie en fait pour vous?
C'est un drame.
Un drame?
Oui, une comédie c'est un drame. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Je pense que toute comédie peut devenir un drame et avoir un enfant qui reste. La réalité des Tanguy qui reste jusqu'à 40 ans chez les parents, c'est pas rigolo.
Mais moi j'ai toujours trouvé que La vie est un fleuve tranquille était un film très triste.
Eh ben voilà, je suis bien d'accord avec vous. Simplement, l'humour, la comédie permet de faire rire au lieu de faire pleurer. Mais tous les sujets de comédie peuvent être des sujets de drame, je pense. Simplement, l'être humain a la sensation que l'art est là pour exprimer la douleur. Donc aussitôt qu'on rigole, on n'est pas pris au sérieux. Il faut masquer pour avoir l'air pénétré et intelligent. Moi, je crois que c'est l'inverse. Je pense que les gens qui parlent de choses extrêmement graves sont des gens qui ont une confiance dans la vie absolument totale. Bien évidemment, ceux qui sont rigolos sont des gens qui doutent de tout. Et voilà.
Ça vous arrive d'avoir l'impression de ne pas être pris au sérieux, Étienne Chatiliez?
Je m'en fous. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment...
Je l'adore.
Il n'y a pas de véritable intelligence sans humour. J'en suis convaincu. Einstein en a été la preuve.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie?
Tout.
Tout?
Ouais, je me fous en bas, là, je regarde les gens passer, et moi, il y a plein de choses qui me font rire. Oui, j'ai l'air blasé, j'ai l'air cynique et tout le bordel comme ça. C'est pas ça du tout. Je suis trahi par une voix de
canard, vous l'avez dit.
Non, je suis beaucoup plus enthousiaste que ça, hein.
Et vous vous faites rire vous-même dans la vie?
Je ne suis pas là pour me faire rire. Non,
il y a des moments sans doute où on se fait rire soi-même.
Ouais, certainement, il y a des moments où je me fais rigoler. Heureusement. Mais j'en sais rien. Et dure votre question.
Mais bah, elles sont souvent dures, mes questions.
Ah ouais, purée. D'ailleurs, on dit difficile et pas dur.
Ouais, on dit tout à fait. Hein? Et je vous remercie de le dire sur France Inter à 9h36. Quand on choisit de réaliser des comédies, Étienne Chatillas, comment on sait si on est drôle?
D'abord, faut être en accord avec soi-même. Faut faire ce à quoi on croit et jamais ce à quoi croient les autres. Vaut mieux se tromper avec ce qu'on aime que se tromper parce qu'on vous a, dit non, tu peux pas faire ça et tout ça. En plus, on est deux. Moi, je travaille avec des scénaristes. Et donc, si l'autre rigole ou tu mets à la poubelle s'il rigole pas.
Mais vous êtes du genre à aller incognito dans des salles de projection pour savoir à quel moment les gens rient, à tester vos films et tout.
Oui, ça je le fais une fois qu'ils sont faits. Et j'adopte le point de vue de la salle. Une scène qui était très très drôle, puis si la salle rit moyennement, je dis oh bon, dans le fond c'est pas si réussi en fin de compte. Mais s'il y a une scène que j'aimais beaucoup et les gens ou l'inverse, j'adopte le point de vue de la salle.
C'est un mystère le rire en fait.
Ouais, c'est ça qui est bien. Si on sait quand même. C'est-à-dire que les salles à des horaires différents ne rient pas forcément aux mêmes endroits tout le temps. Mais même à l'étranger, c'est un peu toujours pareil aussi. Non, c'est ça qui est marrant.
Merci infiniment, Étienne Chatillas, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Tanguy le retour avec Sabine Azéma, André Dussolier, Éric Berger, Émilie Kang, Nicolas Tang sort après-demain. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers, juste après ça.
Tu verras, c'est ta chance. Les gens viennent ici et tout recommence. Au milieu des bruits de la ville, toi t'arrives toute timide, perdu dans le décor, le cœur en l'air et les yeux qui dévorent toutes les saveurs de la ville qui t'appelaient entre ses lignes. Solide et sans pitié, les passants s'amassaient dans ses allées, s'élançant comme une rivière, essaie de rejoindre son cœur. Tu te lances dans cette fois tu t'en sortes.